reportage, interview, expérience radiophonique. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Il était une fois un monde où les disciplines scientifiques étaient séparées. Sociologie, archéologie et histoire d'un côté, maths, physique, chimie de l'autre. Il paraît même que certaines personnes ont tenté de les distinguer en sciences molles et sciences dures. Mais ce monde n'est plus depuis longtemps, et telle l'unification de la Gaule, les disciplines scientifiques se sont retrouvées pour une seule et même cause, celle d'allier archéonumismatisme et physique nucléaire pour raconter l'histoire nantaise à travers ses pièces de monnaie. Raconter l'histoire nucléaire de la monnaie nantaise, c'est l'émission entre Nantes et le Mexique aujourd'hui que vous nous comptons au Labo des Savoirs. Et pour parler aujourd'hui de ce croisement entre histoire et physique nucléaire, nous recevons aujourd'hui Gilda Salin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée des collections de numismatique et de siligographie au musée d'Aubray, le grand patrimoine de Loire-Atlantique. À vos côtés, vous avez également Charlène Pelé-Méziani.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes ingénieure d'études en charge des analyses et responsable du laboratoire, responsable adjointe du laboratoire Arcantique. Et pour terminer avec vous, Charbel Koumir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au groupement d'intérêt public Aronax. Le tout accompagné d'une chronique de Jérémy Frexas sur un autre type de collaboration entre art et physique nucléaire au Louvre.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Alors aujourd'hui, on va parler de pièces, d'histoire et de physique nucléaire. Alors première question pour vous, Charlène, je pense. Dans ce projet d'étude, vous avez porté votre intérêt notamment sur des pièces en argent du XVIe siècle qui sont dans la collection du musée d'Aubray, il me semble, si vous ne me contredisez.
En grande partie. Il y a aussi des fonds privés qui sont sollicités.
Alors comment est-ce que cette collaboration entre Aronax et le laboratoire Arcantique s'est faite ?
Alors, le laboratoire Arcantique a pour vocation la conservation et restauration des objets du patrimoine et dispose donc d'un service support qui permet de réaliser des analyses pour identifier, caractériser, mieux comprendre les matériaux qui sont utilisés sur les objets que mes collègues vont restaurer ou que mes collègues au sein du musée d'Aubray sont en charge. Et donc pour cela, Gilda est venue vers nous avec cette idée de projet et cette nécessité de pouvoir caractériser la matérialité de ces monnaies d'argent. Et donc nous avons échangé ensemble et au vu des techniques d'analyse dont on avait accès au sein d'Arcantique, il était nécessaire de s'ouvrir à d'autres institutions pour pouvoir répondre à aux questions qui nous étaient posées sur ces objets. Et c'est là où on a eu la chance de pouvoir échanger donc avec Charbel pour déterminer quel type de technique d'analyse pouvait répondre à ces questions. Et c'est de là qu'est né nos premiers échanges et aujourd'hui cette collaboration qui date maintenant depuis un peu plus d'un an et demi. Ouais.
C'est la première fois que vous avez collaboré avec Aronax. Et est-ce que vous aviez déjà collaboré par le passé avec d'autres laboratoires de recherche qui ne faisaient pas forcément de l'histoire ou de l'archéologie, mais qui étaient plus dans les sciences expérimentales ?
Alors, On a au laboratoire, on travaille pas uniquement avec les techniques d'analyse auxquelles on a accès au sein du labo. On a des conventions de collaboration qui sont avec notamment l'Université de Nantes, qui nous permettent de travailler aussi avec les chercheurs dans le but de trouver toujours les meilleures techniques les plus pertinentes pour répondre aux questions des conservateurs-restaurateurs. En tout cas, pour ce sujet-là, c'était l'un des premiers projets qui a permis de collaborer avec Aronnax.
Charbel, c'était également la première fois pour vous au sein d'Aronnax, ce genre de collaboration ?
Pour les objets d'art, oui.
Pour les
objets de patrimoine.
Alors, ces pièces en argent qui nous intéressent ici, il faut qu'on redonne un petit peu de contexte, qu'on se demande, mais pourquoi donc s'interroger sur des pièces en argent du XVIe siècle ? Gilda, vous pouvez peut-être nous éclairer sur le contexte historique, notamment nantais, au XVIe siècle. Comment se passe le commerce ? Quels sont les échanges qui s'y déroulent ?
Alors, d'une façon générale, on est même plus précisément dans la seconde moitié du XVIe siècle. C'est en gros la période que tout à chacun identifie comme les guerres de religion. C'est dans ce contexte-là que les pièces que nous étudions ont été produites. Malgré le contexte troublé donc de ces guerres de religion, qui vont donner aussi d'ailleurs singulièrement à Nantes la guerre de la Ligue, qui va se terminer en 1598, notamment avec la signature du fameux Édit de Nantes, malgré ce contexte politique et militaire troublé, il y avait des relations commerciales entre Nantes et l'Espagne. Et l'Espagne, c'est en fait la porte du Nouveau Monde. Et pourquoi travailler sur des pièces d'argent ? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce métal arrivait justement du Nouveau Monde, arrivait directement de l'Amérique. Et c'est pour nous une façon de re-questionner en effet ces relations commerciales entre Nantes, l'Espagne et l'Amérique espagnole. C'est pour cela qu'on investigue sur ces objets, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a sur le temps long, il y a quand même des bouleversements. Par exemple, Nantes, depuis un peu plus d'un siècle à cette période-là, commerçait singulièrement avec Bilbao, donc le grand port situé au nord de l'Espagne. Et puis, et c'est ce que ces pièces nous montrent aussi, on en reparlera certainement, au bout d'un moment, on se rend compte que Nantes ne travaille plus du tout avec Bilbao et se tourne vers Séville. Et ce n'est pas le fait du hasard, et c'est aussi ces analyses qui nous permettent d'y revenir.
Des analyses qui ont été faites au sein du laboratoire Arcantique. Alors comment est-ce qu'on récupère ces informations ? Qu'est-ce qu'on peut tirer tout simplement d'informations d'une pièce d'argent que l'on reçoit et qui est passée probablement par des dizaines et des centaines de mains à travers l'histoire ?
Alors il y a quelques analyses que l'on peut faire au laboratoire, mais les principales manips ont été réalisées à Aronnax, puisque nous, les techniques que l'on a à Arcantique ne permettaient pas d'avoir de répondre dans la limite de détection qui était nécessaire. C'est-à-dire que là, on va aller chercher des éléments de trace dans des très 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 faibles concentrations, et les techniques qu'on a actuellement à Arcantique ne le permettent pas. D'où notre collaboration avec Charbel. L'objectif étant effectivement d'aller chercher ces éléments traces qui sont le traceur finalement du minerai, et donc pour nous aider à identifier, caractériser le métal de base.
Mais que savait-on déjà de ces pièces ? Qu'est-ce qu'elles pouvaient déjà nous raconter avant ces analyses peut-être supplémentaires ? Qu'est-ce que c'est ces pièces ? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire ?
Alors, c'est des monnaies en argent. Et après tout le reste, puisque c'est surtout de l'observation que l'on peut avoir comme information. Là, je laisse vraiment la parole à Gilda.
De l'observation visuelle, tout ça.
Oui, en fait, le projet de recherche est de permettre, disons, en quelque sorte, une analyse interne de l'objet. Jusqu'à présent, on s'appuie pour en décrire l'histoire à la fois sur les documents d'archives, comme un historien le fait au quotidien, et puis pour ce qui est appliqué à la numismatique, c'est l'analyse externe, c'est-à-dire l'étude typologique. L'étude des types nous montre, j'ai envie de dire, un joyeux bordel, où on se rend compte qu'il y a des matrices qui ont été faites ici et là, et alors que les monnaies sont bien faites à Nantes. Donc on se rend compte qu'il y a d'un seul coup une sorte de particularité sur certaines années, en particulier l'année 1575, qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'il y a peu, et surtout qu'on ne savait pas forcément expliquer. L'explication apparaît tout simplement par le fait qu'on se retrouve avec des quantités considérables à traiter et que le seul atelier monétaire de Nantes était en incapacité technique tout simplement de le faire, d'où un soutien technique d'autres ateliers monétaires. Ce que ces pièces nous racontent, donc juste sous l'angle de la critique ou de l'analyse externe, c'est qu'il y a un bouleversement. Il y a visiblement des relations qui se font plus fortement entre Nantes et toutes les autres ateliers de l'Ouest. Et ça nous montre qu'effectivement, il y a un flot de métal qui n'était pas forcément prévu et que l'atelier monétaire de Nantes n'était pas dimensionné pour le gérer. C'est aussi pour cela qu'on ne pouvait pas se contenter simplement de l'habituelle analyse externe et que l'analyse interne nous était indispensable. Il faut rappeler aussi peut-être que ce projet de recherche que nous mettons en place, qui est mis maintenant en place, s'inscrit dans une démarche plus ancienne. En fait, ça fait 50 ans que certains essayent de travailler là-dessus, à identifier ce que j'ai envie d'appeler, pour synthétiser, l'ADN du métal. En fait, c'est ça aussi l'élément trace, c'est retrouver l'ADN du métal, parce que lorsqu'on a la référence du gisement d'origine, eh bien on peut arriver à faire le lien entre le métal monnayé à un endroit, à un instant T, et le minerai d'où il a été, enfin de la mine d'où il a été extrait.
Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible de faire jusqu'à présent ?
Alors, il y a eu ces premières analyses, en effet, depuis une cinquantaine d'années, mais avec, je pense, quelques erreurs aussi méthodologiques, notamment de travailler sur un temps trop long et sur une aire géographique trop large. Et nous, on a pris le contre-pied complet de ne travailler que sur Nantes et que sur une période assez réduite, mais pour le coup, d'aller vraiment très très à fond dans les analyses. Et puis, et là, c'est pas moi qui suis le mieux placé pour pouvoir en parler, reprendre l'analyse, la méthodologie, et profiter en même temps des avancées techniques, parce que les premières analyses qui datent de 1972, on n'avait pas les mêmes capacités qu'aujourd'hui. Donc en fait, c'est re-questionner en faisant un pas de côté pour ne s'intéresser qu'à un endroit, et en même temps profiter des nouvelles technologies d'aujourd'hui.
Alors ces nouvelles technologies d'aujourd'hui, justement, comment est-ce qu'on démarche un laboratoire de sciences expérimentales ? On va lui demander précisément... J'aimerais bien identifier cette pièce précisément. Qu'est-ce que vous avez comme technique à nous proposer ? Ou alors on conçoit réellement l'expérience ensemble et on va un petit peu plus loin, on cherche de nouvelles limites de détection, de nouveaux procédés. Comment est-ce que on prévoit ces expériences, Charbel ?
D'abord, c'est une chance pour nous pour travailler avec Charlène et Gilda pour dans ce cadre de projet, parce que c'est grâce à ce projet-là qu'on est en train de développer, continuer à développer notre technique aussi et améliorer la performance de cette technique qui a été développée avec Subatec aussi, le laboratoire Subatec, l'équipe Prisma et Aronax. Les techniques d'analyse basées sur la physique nucléaire appliquée, donc ils peuvent ils sont basés sur des outils qu'on utilise comme des accélérateurs qui vont venir bombarder la matière, et donc du coup il y aura des réactions, que ce soit avec l'atome ou le noyau, et il va y avoir des produits émis, et donc si on détecte ces produits, donc on va venir caractériser, détecter, analyser ce qui est dans le matériau.
Et ça, ce sont en fait des techniques qui sont existantes et que vous mettez à disposition en fait peut-être pas de n'importe qui en effet, mais de n'importe quel projet de recherche qui souhaiterait utiliser ces outils pour autre chose que tout simplement, entre guillemets, bombarder un échantillon.
Tout à fait, exactement, tout à fait. Parce que la technique qu'on a au cyclotron Arnax utilise des faisceaux de haute énergie, donc ils s'adaptent facilement, parce qu'ils ne sont pas sous vide, on travaille à l'air, donc ils s'adaptent en fonction du type d'objet, de l'application. Il y a moins de contraintes de mécanique ou...
Et Aronnax n'est pas le seul équipement de physique nucléaire dont les techniques sont utilisées au service de l'histoire. Au sous-sol d'un des plus grands musées du monde se cache une surprise de taille que vous allez découvrir avec Jérémy Frexas.
Peut-être que vous attendez impatiemment comme moi un futur épisode de la nuit au musée qui pourrait se dérouler au Louvre. En plus d'y croiser Philippe Catherine dans le rôle de Mona Lisa, on aurait le plaisir d'y découvrir une salle secrète, celle d'Aglaé. Mais que cache cette mystérieuse salle? Un indice pour vous à la maison. Ce son nous est fourni par les collègues du journal La Croix. Les oreilles les plus averties auront reconnu un bruit de pompe. Aglaé fonctionne en effet sous vide. Il s'agit d'un accélérateur de particules installé dans les sous-sols du Louvre, à la verticale du jardin des Tuileries. Cet équipement est opéré par le C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Mais pour quels usages ?
Aglaé va faire de l'analyse élémentaire. On va donc avoir accès à la composition chimique, identifier les éléments. Quand on se pose un problème de provenance, par exemple, où il faut avoir accès aux éléments chimiques à l'état de trace, on vient à Aglaé, surtout si on a un objet sur lequel on ne peut pas prélever ou on doit faire une analyse non destructive.
Nous venons d'entendre Claire Pacheco, ingénieure au C2RMF, au micro de journaliste de Télérama. Aglaé permet donc l'analyse de la composition chimique de matériaux issus d'œuvres d'art ou d'objets du patrimoine. Comme nous avons pu l'évoquer plus tôt dans l'émission, on étudie les rayonnements émis par la matière lorsqu'elle est soumise à de fortes énergies. Les propriétés de ce rayonnement apportent des informations physico-chimiques sur le matériau en question. Ces analyses permettent d'appréhender des problématiques de conservation ou de restauration, ou encore d'étudier la provenance de matériaux. Mais certains de ces questionnements sont bien plus périlleux. Numéro d'octobre 2017 de la revue de la Société Chimique de France, l'actualité chimique, revient sur les conclusions d'une affaire qui a mis un terme à une imposture de près de 80 ans. La vérité sur l'affaire de la tête égyptienne en verre bleu a pu éclater grâce au travail précieux de Geneviève Pierra Bonnefoy, alors conservatrice en chef du département des antiquités égyptiennes du Louvre, et Isabelle Biron, ingénieure de recherche au C2RMF. Cette pièce acquise il y a quasiment un siècle par le musée semblait unique. Deux morceaux, un visage et une perruque, chacune dans une nuance de bleu, assemblées en une statuette. Les choix esthétiques correspondent à ceux de la 18e dynastie, mais certains détails laissaient perplexes plusieurs spécialistes, comme la forme de la bouche ou l'aspect de la perruque. Nos deux enquêtrices ont donc cherché à percer les mystères de la composition chimique de ce verre. Les techniques de fabrication et de coloration évoluant avec les époques, il devient possible d'avoir des éléments de datation et donc de repérer des faux. Les preuves sont accablantes. 1. Les cendres végétales entrant dans la composition du verre égyptien. Or, ici, aucune trace de phosphore ou de soufre caractéristique n'est présente. 2. Le bleu turquoise égyptien était obtenu par l'ajout d'oxyde de cuivre, remplacé ici par de l'oxyde de cobalt. 3. L'oxyde de cobalt se trouve aussi dans le bleu foncé, ce qui est cette fois-ci cohérent. Mais les métaux associés à cet oxyde, l'aluminium et le nickel, sont déroutants. Dans les mines d'où provient le cobalt du verre égyptien, les métaux compagnons sont plutôt le manganèse, le nickel et le cuivre. Ce qui laisse penser que ce cobalt ne provient pas des mêmes mines que celui utilisé dans les statuettes égyptiennes. 4. Le verre égyptien était opacifié avec des oxydes d'antimoine et de calcium. Or que trouve-t-on ici ? Des oxydes d'arsenic de plomb. Recette qui ne s'est popularisée qu'avec l'activité des verriers vénitiens du XVIIe siècle. Et enfin, une pollution superficielle au fluor a été repérée uniquement sur les surfaces rugueuses. Rien sur les surfaces lisses. Il s'agit probablement d'une attaque à l'acide fluorhydrique. Mais pour quels effets ? Rendre l'objet plus ancien, avec un côté mat et rugueux. Changer localement la couleur du bleu pour se rapprocher des teintes égyptiennes. Des traces de coulées sont encore visibles par endroits et cette technique ne s'est développée qu'à la fin du XIXe siècle. Alors tous ces anachronismes amène nos deux enquêtrices à conclure avec humilité. Je cite « Si notre faussaire a failli sur le style et sur la couleur bleu ciel du visage, il se montre toutefois un professionnel ayant visiblement pris soin d'étudier les techniques de fabrication et les matériaux employés à l'époque. Toutefois, n'imaginant pas que son œuvre puisse un jour se retrouver sous le faisceau d'ions d'un accélérateur de particules, notre faussaire n'a pas tenté de se rapprocher de la composition des verres de l'Égypte antique, les analyses chimiques étant rares et incomplètes avant les années 20. Aux faussaires qui nous écoutent aujourd'hui, allez donc faire un tour sur la plateforme Culture Sciences Chimie de l'École Normale Supérieure pour progresser un petit peu. Et pour les autres, n'hésitez pas à fouiller le web pour découvrir les autres secrets percés par Aglaé, des dessins d'Ingres, aux parures de Carnac, en passant par les cuirs de Cordoue.
Une belle enquête nucléaire au cœur même du Louvre, et on continue de parler d'histoire et d'accélérateurs de particules après une pause musicale 51 Black Super du groupe MJ Wilson.
Thousands of open cars. He spattered all his poems down. Ended up all fucked up and unhappy. Lost in his house, his own decline. The class has taken over. Fences. And you say there's no
Science au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs avec Gilda Salin, Charbel Koumir et Charlène Pelé-Mesiani, où nous étudions des pièces en argent grâce, eh oui, à la physique nucléaire. Alors, on en a parlé très rapidement en tout début d'émission. Aronnax, un cyclotron, c'est quoi un cyclotron, justement? Qu'est-ce que c'est Aronnax? Comment tout ceci fonctionne, Charbel?
C'est un cyclotron, donc c'est appartient à la famille des accélérateurs.
C'est un accélérateur de particules.
Voilà, des particules chargées, et là, c'est des ions. Donc, il y a trois parties.
Un ion étant un atome, une partie, qu'est-ce que c'est un ion?
Voilà, donc en fait, la première chose, il faut préparer ces ions à partir d'un gaz. Donc, par exemple, ça peut être l'hydrogène, qu'on va venir ou ioniser, il devient chargé positif, ou on va rajouter une charge négative à l'électron, il devient négatif, parce qu'il faut qu'il soit chargé pour lui communiquer de l'énergie pour l'accélérer.
Donc ça veut dire qu'un ion, c'est une particule, un atome auquel on enlève une charge électrique,
voilà,
qui sont les électrons, ou on en rajoute une.
Exactement.
Et il a d'autres propriétés physiques que l'atome stable.
Voilà, tout à fait. Donc à ce moment-là, il est chargé, on peut venir agir pour lui communiquer de l'énergie électrique et l'accélérer. Donc la première partie, c'est de préparer ce gaz-là pour qu'il devienne ion. Et après, de la deuxième phase, c'est de l'injecter à l'intérieur de la cavité accélératrice. Donc c'est un cyclotron, c'est circulaire. Donc on va venir injecter, faire tourner les particules. Et à chaque tour, les particules, ils gagnent d'énergie jusqu'à un certain... Et plus qu'ils gagnent de l'énergie, le rayon, il augmente jusqu'à un certain rayon max du cyclotron.
Et là, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment littéralement de plus en plus vite, elles font des tours, voilà, de plus en plus grands.
Exactement, jusqu'à le maximum de rayons, le périphérie. À ce moment-là, ils sont prêts à être envoyés. Donc ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, c'est la mise en forme de ce faisceau-là, de particules. Donc il y a des éléments optiques, magnétiques, qui vont venir dévier, focaliser le faisceau et l'envoyer vers la cible.
Là où on le souhaite.
Voilà,
on dirige le faisceau donc ionisé.
Voilà, accéléré.
Voilà, qui va très vite.
Voilà.
Vers l'échantillon qu'on cherche à analyser, j'imagine.
Exactement.
Très bien. Et quelles sont les applications du coup de ce genre de technique, à part de l'étude nucléaire, physique, fondamentale?
Voilà, donc en fait, ça c'est dépend de la gamme d'énergie. Donc nous, on est à une énergie moyenne, donc un peu élevée. Donc, dans cette gamme d'énergie, on peut avoir plein d'applications. Donc, on peut aller de caractérisation des détecteurs en spatial, donc parce qu'on a des protons, des ions, donc accélérés à la même énergie. On peut faire de l'application dans le cadre du protonthérapie pour la santé, parce qu'on a la même énergie. Et donc, du coup, on peut venir aussi faire l'étude fondamentale aussi de caractérisation plus. Comprendre comment ça se passe, l'interaction entre ces ions-là, ces énergies-là, avec les atomes, les noyaux. Donc ça, c'est plus côté fondamental. On a aussi un autre axe, plus côté radiolyse, donc du coup, venir comprendre le comportement de l'eau sous rayonnement avec ces énergies-là. Et on a des applications avec, comme l'art quantique, c'est de l'analyse non destructive, donc avec ces faisceaux-là qui sont très énergétiques, qui peuvent rentrer très loin dans la matière et analyser en profondeur.
Et c'était là surtout l'intérêt de ne pas être juste en surface, parce que ça doit être probablement déjà fait finalement, l'étude de ces pièces en surface.
Alors, ces modèles-là, exactement, non. Par contre, effectivement, on a des techniques qui permettent de faire l'analyse de surface, mais ce sera aussi la limite que l'on va rencontrer sur les techniques très accessible que l'on a dans les labos du patrimoine, ça va être la limite de détection. On ne va pas rentrer dans le niveau élément-trace. Et un des points extrêmement intéressants que Charbel a dit, effectivement, c'est aussi du non-destructif. Donc on va pouvoir analyser un objet du patrimoine, voilà, sans intervenir, sans interagir avec la matière de façon irréversible. Et ça, c'est un avantage qui est extrêmement important et dont la technique PIX nous offre. Et voilà.
Contrairement aux techniques précédentes qui demandaient peut-être un échantillon ou de prélever de la matière.
Alors, soit on était limité en limite de détection, soit effectivement il y a une possibilité de faire un prélèvement qui peut être micrométrique, difficilement visible à l'œil nu. Ça reste toujours un prélèvement que l'on fait, qui parfois n'est pas forcément acceptable aussi, puisque ça peut dénaturer la surface de l'objet s'il y a des analyses macro ou microscopiques de façon visuelle.
Alors Charlène, vous avez prononcé le nom de cette nouvelle technique, la technique PIX, pour particules. Est-ce qu'on prend l'accent en anglais, particle induced X-ray emission?
Exact.
Apprécié. Qu'est-ce que, du coup, elle est non destructive, mais qu'est-ce que c'est exactement cette technique? J'imagine que s'il y a le nom X-ray dans son nom, c'est qu'on doit bombarder de rayons X l'échantillon.
On peut.
On peut.
Ça, c'est Charlène. Chez Charlène.
C'est une technique qui a été pas forcément, j'imagine, créée pour cette étude-là des pièces de monnaie. C'est une technique qui est couramment utilisée en physique nucléaire.
Voilà, elle est répandue surtout avec des faisceaux de basse énergie. Donc, du coup, parce que à l'époque, il y avait pas mal des accélérateurs de basse énergie.
Des accélérateurs de particules,
de basse énergie, et donc c'était limité, comme vous l'avez expliqué au départ, c'était limité à l'analyse de surface. Donc là, avec les cyclotrons, avec la médecine nucléaire, il y a des cyclotrons plus énergétiques, donc c'est cette méthode PIXI, elle est en train de se développer avec des faisceaux plus énergétiques. Voilà. Donc du coup, PIXI, voilà, donc on va envoyer des protons. Le P, ça peut être le proton, ou un autre ion léger. Souvent, c'est des ions légers, parce que pour ne pas endommager la matière. Voilà. Et donc, ça peut être le proton ou l'hélium, le noyau de l'hélium. Voilà. Et donc, lorsque ces particules sont assez énergétiques, donc ils peuvent pénétrer la matière, et sur leur parcours, ils vont croiser les atomes. Donc, ils vont exciter, ils vont éjecter des électrons. Ils vont aussi rencontrer parfois le noyau, ils vont faire quelques réactions nucléaires. Et donc du coup, une fois la particule est passée, l'atome qui était excité, il va se réorganiser, donc en attrapant un électron quelque part, et il va émettre un rayon X, un photon, donc on l'appelle rayon X parce que c'est énergétique, et qui vient de l'atome. Et donc si ce rayon X-là, il réussit à sortir de l'échantillon, et que nous on vient l'intercepter avec un détecteur, donc du coup à ce moment-là on détecte ce rayon X qui vient de l'élément, et ce rayon X là chaque élément il a sa propre rayon X, son propre rayon
spécifique. Donc voilà. Si je comprends bien, dans l'échantillon il est composé d'atomes très spécifiques, j'imagine, parce que c'est un élément précis qu'on recherche à identifier, on va en parler un peu plus tard. Si je comprends bien, du coup cet atome et ces électrons, quand vous dites qu'ils sont excités, c'est qu'ils reçoivent de l'énergie
du faisceau.
Et c'est un peu comme nous, quand on a trop d'énergie, il faut l'évacuer. Et il évacue avec un photon,
exactement.
Avec de la lumière, finalement.
Exactement, avec de la lumière énergétique.
Et c'est précisément ça, si ça arrive sur les détecteurs qui sont autour de l'échantillon.
Tout à fait.
C'est ainsi qu'on sait s'il y a présence ou non de cet élément dans l'échantillon.
Voilà, à condition qu'on détecte assez de photons.
Qu'on détecte, parce que si on ne voit rien, on ne sait rien.
Exactement.
Alors, l'élément que vous cherchez notamment dans ces pièces, des pièces d'argent, c'est l'inidium.
L'indium.
Qu'est-ce que c'est? C'est un élément de la classification périodique. Qu'est-ce que c'est cet élément?
Alors, c'est pas moi qui suis mieux placé pour en parler. Moi, je peux parler des applications justement derrière. On cherche peut-être, on va préciser deux éléments. L'indium et l'or. En fait, il y a deux éléments traces, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur ce qui peut ressembler à l'ADN des alliages. Et l'ADN de l'argent, par exemple, dans l'argent européen, il y a plutôt de l'or comme l'élément trace. Dans de l'argent d'Amérique du Sud, plus précisément de Potosi, c'était la grande mine découverte en 1545. La grande mine qui va inonder le monde entier d'argent. Quand je dis le monde entier, c'est vraiment tout l'arc atlantique, mais aussi tout le Pacifique, y compris la Chine, etc. Eh bien, nos devanciers ont identifié l'indium comme étant l'élément trace spécifique de l'argent de Potosi. Et c'est donc pour cela qu'en allant chercher, on descend jusqu'à quelques parties par million. Quand on voit en effet la proportion d'indium qui monte et en parallèle la proportion d'or qui descend, eh bien, on voit que dans l'argent monnayé en Europe, singulièrement à Nantes, eh bien, la part d'argent européen diminue pendant que l'argent américain augmente.
Donc c'est littéralement une espèce d'ADN ou de carte d'identité qui donne les informations sur l'origine de l'échantillon, qui est ici une pièce en argent.
Exactement, et du coup on se sert de ces pièces d'argent de la caractérisation justement de cet ADN, pour reprendre l'expression, pour se servir des pièces comme les petits cailloux blancs du petit pousset, quoi, tout simplement, pour aller rechercher. On sait où elles arrivent et on cherche à savoir d'où elles viennent et par où elles passent. Et en gros, c'est ça notre projet de recherche.
Et le fait d'utiliser ce marqueur chimique précisément, c'est ça, c'est une nouveauté ou c'est une technique qui est couramment utilisée pour plein d'autres pièces ou d'autres échantillons ?
Alors, le procédé est... c'est déjà appliqué sur d'autres sujets. Par exemple, alors je suis en train de chercher j'en avais d'ailleurs parlé ici à l'antenne sur les monnaies mérovingiennes. On a certains éléments qui permettent de caractériser de l'or qui vient de Byzance, et on a aussi les moyens de caractériser par l'élément trace de l'or alluvionnaire armoricain. Et donc là on l'applique simplement à une autre période, à un autre métal, mais sinon méthodologiquement parlant c'est exactement la même chose. Et ça avait été notamment mis en place par les équipes du laboratoire Babylon à Orléans, avec un cyclotron.
Donc c'est vraiment des techniques qui sont utilisées couramment de caractérisation chimique des échantillons pour vraiment compléter tout ce qu'on peut voir sur la surface, avec même un microscope.
Vraiment la critique, l'analyse interne de l'objet.
L'analyse interne de l'objet. Alors justement, qu'est-ce que la présence de ces éléments sur ces pièces-là peuvent nous dire, par exemple, sur le trajet qui a été emprunté par ces pièces depuis les mines d'argent de Potosi jusqu'aux ateliers nantais?
Alors là, c'est là qu'on a aussi besoin d'avoir les informations historiques. Et en fait, on confronte, généralement quand on discute avec Charlène et Charbel, c'est voilà ce qu'on a pu trouver dans telle pièce, qu'est-ce qu'il en est des données historiques? Est-ce que ça corrobore ou est-ce que c'est différent? Et dans tous les cas, on doit trouver l'explication pourquoi c'est pareil ou pourquoi c'est différent. Qu'est-ce que ça nous apprend? Déjà, ça nous confirme une chose, c'est que en 1575, Nantes est presque directement en lien avec les mines de Potosi. Quand je dis presque directement, c'est-à-dire qu'il y a un temps relativement réduit entre le moment de l'extraction à Potosi et son arrivée à Nantes. On ne peut pas parler de circuit court à l'époque, ce serait excessif parce que tout passe en revanche nécessairement par Séville. En fait, Séville était la porte d'entrée de l'Amérique espagnole. Toutes les richesses qui arrivaient du Nouveau Monde étaient concentrées à Séville. Mais en tout cas, la présence d'argent potosien à Nantes, en quantité significative, nous montre qu'en effet, il y a moins de mélange avec de vieilles monnaies européennes qui seraient refondues. Le métal, singulièrement dans le cas des monnaies, c'est une affaire toujours de recyclage. On refond les pièces étrangères, les pièces anciennes. Et donc, quand je dis que le temps se réduit, c'est qu'il y a plus ces refontes successives, et on utilise, si j'ose dire, de l'argent frais venant directement de l'Amérique espagnole via Séville. Je dis ça parce que c'est une donnée importante. Les premières analyses qu'on a pu faire, on a testé aussi des monnaies un petit peu antérieures, 1561. Là, il n'y avait pas du tout d'indium, alors qu'il y avait de l'or, donc ce qui confirmait qu'on était plutôt sur du métal européen. Et ça correspond là aussi aux données historiques que l'on pouvait avoir, parce qu'à cette période-là, Nantes commerçait beaucoup plus avec Bilbao. Bilbao n'était pas en lien direct avec l'Amérique espagnole, d'où l'argent qui était ramené de Bilbao était en fait déjà le résultat d'alliage des monnaies, de la réutilisation d'argent européen. Donc ça, déjà, la première donnée, c'est de nous montrer les orientations, en effet, de ce commerce nantais qui part de Bilbao, qui va ensuite vers Séville, et qui, s'ouvrant à Séville, en fait, se met en lien direct avec l'Amérique espagnole. Ensuite, les autres analyses, mais on est encore qu'au tout début, nous montrent des proportions qui augmentent considérablement, surtout dans les périodes de paix. L'année 1599, par exemple, on a trouvé des monnaies qui sont, visiblement, c'est de l'argent potosien qui arrivait à Nantes, qui était fondu tout de suite, parce qu'on a une proportion d'indium extrêmement élevée. Alors que l'année d'avant, en 1598, nous sommes pendant les derniers mois de la guerre de la Ligue, Nantes est seule en rébellion face à Henri IV, et Nantes est du coup très refermée sur elle-même. Le commerce n'aime pas la guerre, et l'activité commerciale est complètement refermée. Du coup, on a identifié une monnaie où il y a énormément d'or. C'est la pièce où il y a le plus d'or comme élément trace dans tous les échantillons qu'on a pu faire. Ben ça, c'est somme toute assez logique. Nantes est refermée. On continue à utiliser, à frapper des monnaies tout simplement pour payer les soldats, parce que les pièces qu'on analyse, c'est des pièces qui servent à payer les soldats, grosso modo. Eh bien, on refond tout ce qu'on a, de la vieille vaisselle d'argent, des vieilles monnaies, etc. Mais en tout cas, des choses, du coup, faites avec de l'argent européen. Et c'est avec ça qu'on maintient, disons, les dernières troupes nantaises face au roi. Donc, en fait, ces analyses nous permettent vraiment... Pourquoi, en plus, on reste que sur Nantes, c'est que, comme on part sur une étude sur le temps long, on voit bien qu'il y a quand même des différences d'une année sur l'autre, d'une décennie à l'autre. Et ça, c'était aussi un des problèmes méthodologiques utilisés par, de nos devanciers. Donc, ce que ça nous permet, c'est que ça nous montre les proportions, les relations, les datations plus précises de l'évolution de ces relations commerciales entre Nantes et le monde. Et j'insiste bien, c'est la place de Nantes dans la mondialisation, puisqu'en réalité, l'argent part de Potosi, traverse l'Atlantique, mais traverse aussi le Pacifique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour aller jusqu'en Chine. Et une fois arrivé à Nantes, ou plutôt deux passages à Nantes, il y a aussi de l'argent qui remonte jusqu'à Anvers, jusqu'à Bruges, et se diffuse ensuite dans l'Europe du Nord. Parce que depuis l'année 1556, les Pays-Bas sont devenus Pays-Bas espagnols, et en fait, Nantes devient une escale facile entre Nantes et entre l'Espagne et les Pays-Bas espagnols. Et c'est singulièrement basé sur l'argent, sur l'approvisionnement en argent des principautés des Pays-Bas. Et je pourrais aussi réévoquer que depuis plus d'un siècle, puisqu'il y avait des relations commerciales importantes entre Nantes et l'Espagne, il y avait une communauté espagnole très nombreuse à Nantes. Il faut imaginer qu'il y avait 5% de la population nantaise qui était des Espagnols impliqués dans l'activité commerciale. Et presque du jour au lendemain, la plupart sont passés du commerce des toiles, des tissus, au grand commerce international de la finance, singulièrement basé sur l'argent. Un personnage important s'appelait André Ruiz. Ben lui, c'était un financier, c'était un changeur. Il faisait de la spéculation sur les métaux précieux et en premier lieu sur l'argent.
Et c'est je ne vais pas dire que c'est tout ceci grâce à un seul élément qui est l'indium, mais ça corrobore réellement les appuis, toutes les traces qu'on avait, toutes les archives qui existaient. Là, c'est vraiment une espèce de confirmation par la physique de ce qu'on a vu dans les archives.
Je ne peux pas dire qu'on ait fait pour l'instant de grandes découvertes sur le sujet, mais en revanche, on a fait plein de confirmations, surtout beaucoup de précisions. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'année 1565, qui est visiblement un bouleversement, les Nantais ne vont plus à Bilbao, ils vont à Séville. Jusqu'à présent, personne n'en avait parlé. À quel moment...
On imaginait...
À peine. On savait que c'était avant 1575.
Et là, avec ce marqueur vraiment chimique de la pièce, on le sait, une datation.
Ça m'a amené aussi à réinterroger les archives et aller en chercher d'autres. Quand Charbel, tu es venu en me disant, dans la pièce de 1561, il n'y a pas d'indium. Punaise, moi j'étais presque sûr qu'il devait y en avoir. Et c'était Charbel qui avait raison, d'abord d'une part, parce que c'est ainsi, quand on présente un échantillon à l'analyse, il y en a, il n'y en a pas. À charge à moi de me débrouiller pour trouver la raison pourquoi il y en a, pourquoi il n'y en a pas. Donc ça m'a amené à réinterroger les archives, à en retrouver d'autres éléments d'archives, et à les confronter aussi avec ces analyses externes dont je parlais tout à l'heure. Et donc oui, on fait plein de précisions, et ça, en revanche, c'est vraiment très stimulant.
C'est vraiment un résultat supplémentaire parmi la quantité d'informations qu'on connaît déjà.
Oui, et c'est aussi l'occasion du coup de les additionner et puis de réécrire cette histoire qui reste en plus à écrire.
Ça, c'est une très belle parole. Pour aller vers la deuxième pause musicale, on va peut-être pas réécrire l'histoire, mais on va peut-être chiller avec Chilling In du groupe Free Dust. We'll be right back.
science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
Dernière partie au Labo des Savoirs, toujours avec Gilda Salin, Charbel Koumir ainsi que Charlène Pellemesiani pour parler de pièces et de retours dans le passé sur les terres de Potozoï. J'adore ce nom. Alors, ces analyses de ces pièces, notamment avec la technique PIX, ont montré leur utilité, notamment avec le traçage de cet élément qu'est l'indium, qui a permis de réellement dater, de confirmer des hypothèses d'un infirmier d'autres. Mais du coup, est-ce que cette technique pourrait être imaginée pour d'autres éléments, pour d'autres pièces, avec d'autres marqueurs, et continuer les collaborations en fait, entre sciences expérimentales et l'histoire ou l'archéologie? Charbel, par exemple, si vous voulez vous lancer.
La technique PIX, elle est adaptée pour les métaux. Donc s'il y a des traces type métaux comme l'indium, l'or, oui, on peut toujours l'analyser sur les pièces de monnaie. Votre question, c'était sur les pièces de monnaie.
On peut imaginer, la question était ouverte justement pour savoir si on pourrait imaginer des collaborations futures entre pas que les pièces de monnaie, rechercher l'argent, rechercher l'indium, ou sur d'autres, on peut penser peut-être à des pendentifs, des bijoux qui contiennent en effet encore des métaux, donc peut-être pas le meilleur exemple, mais peut-être sur des datations d'archives, de documents.
Voilà, donc du coup, pour l'instant, avec Charlène, on a travaillé sur d'autres projets. Donc elle peut mieux expliquer que moi. Tu veux...
Donc on parlait des futures collaborations
qui ont déjà un petit peu commencé. C'est vrai que quand il y a déjà un an et demi, quand on a commencé à échanger donc avec Charbel, on avait quelques sujets en poche. Et donc il y en a quatre actuellement. Donc on parle des monnaies d'argent, mais les trois autres concernent par exemple l'étude d'une canalisation en plomb qui présente une brasure à sa surface. Donc une brasure, c'est une soudure qui est un mélange de plomb et d'étain, donc de deux éléments lourds. Et nous, ce que l'on a pu faire en interne Arcantique, ce sont des analyses de surface. Ce qui nous intéressait, c'était des analyses non destructives qui pouvaient traverser la soudure pour voir l'évolution de la proportion plomb-étain de la surface jusqu'à l'intérieur, jusqu'à le contact avec le métal.
Donc à nouveau, en fait, une analyse physico-chimique pour corroborer ou infirmer des résultats.
C'est ça,
peut-être pas au doigt mouillé, mais
de visu. Une technique de fabrication, par exemple, pour aller plus loin sur les informations archéologiques, de technique de fabrication pour ce sujet-là. Après, il y a d'autres sujets. Un autre, on travaille actuellement sur aussi un crucifix qui présente une dorure. Donc c'est en alliage cuivreux. Il présente une dorure à la surface. L'objectif, c'est d'essayer de déterminer l'épaisseur de la dorure sans prélèvement, donc de manière totalement non destructive. Donc actuellement, à Arcantique, on a une technique d'analyse qui pourrait nous le permettre, mais n'étant pas réellement sûr de cette précision, on a la chance de pouvoir aussi le tester avec Charbel pour valider aussi. C'est des fois des méthodologies que l'on met en place au sein d'Arcantique. Et Charbel vient nous valider si oui ou non c'est cohérent. Et effectivement, on peut continuer sur cette méthode.
Donc il y a véritablement des ponts et des liens à continuer à créer et à maintenir entre deux mondes qui souvent on tente d'opposer, que sont les sciences expérimentales et l'histoire, l'archéologie, même plus généralement les sciences sociales, alors que vraiment il y a un lien, il y a des transdisciplinarités à imaginer.
Oui, et c'est notre quotidien pour nous on travaille en tout cas au sein de Grand Patrimoine avec tous les labos satellites avec qui on collabore. Pour nous, c'est une évidence en tout cas de la nécessité de cette transversalité, on en a besoin, et puis c'est ce qui nourrit honnêtement nos résultats et qui favorise leur pertinence aussi.
Et j'imagine que probablement quand vous pensez ces projets ou que vous discutez des résultats, le fait de peut-être venir de disciplines différentes alimente les discussions.
Exactement. Et on se remet en question. On se remet en question aussi sur, peut-être qu'on n'a pas été voir certaines caractéristiques qui permettraient plutôt d'y répondre. Enfin voilà, c'est vraiment des échanges à chaque fois qui sont extrêmement enrichissants. Il faut oser se remettre en question et généralement ça se passe toujours extrêmement bien.
Alors maintenant qu'on a imaginé, on a tenté d'explorer le passé. Qu'est-ce que ça pourrait donner sur ces techniques-là, ou quelles seront les traces qui resteraient de nos monnaies, par exemple, des objets qu'on manipule du quotidien, des billets qui n'existaient probablement pas à l'époque. Qu'est-ce qui resterait de nos échanges? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter de nos échanges mondialisés actuellement dans des siècles à venir?
Alors, je suis pas sûr qu'on arriverait à en dire grand-chose à partir de ces techniques, pour une raison simple, c'est que si ça fonctionne aussi bien sur des pièces du XVIe siècle, on aurait pu parler du XVIIIe et puis d'autres avant ou après, mais c'est que ces périodes-là, on est sur ce que l'on appellerait aujourd'hui l'économie réelle. Ce qui faisait la valeur d'un objet, c'est sa matérialité. Et en plus, cette question de la matérialité, les traces matérielles de l'histoire, c'est un sujet qui aujourd'hui est vraiment à la mode, si je puis dire, dans l'historiographie contemporaine. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'économie réelle. Les flux économiques se font de façon dématérialisée. On ne pourra pas étudier la matérialité de flux financiers dématérialisés. Là, il faudra s'appuyer sur des données archivistiques, pour autant qu'ils puissent en rester. Non, malheureusement, oui. C'est nécessairement appliqué. Ou alors, ce sera sur d'autres sujets. Charlène évoquait tout à l'heure des canalisations pour retrouver les savoir-faire. Ça, oui, mais ça ne sera pas sur les données financières ou marchandes, c'est ça que je veux dire.
La mondialisation vraiment globale, générale et parfois à outrance brouille un petit peu les pistes historiques qu'on pourrait laisser derrière nous.
Moi, je pense que c'est plutôt une affaire de relation à la monnaie, là, pour le coup. C'est que nos référentiels ne sont plus matériels, ils sont immatériels aujourd'hui. Vraiment, si les pièces de Potosi sont arrivées aussi massivement en région nantaise, c'est aussi parce qu'à cette époque-là, une pièce de monnaie était considérée comme un petit morceau de métal précieux, donc en fait comme un petit lingot. Et d'ailleurs, les pièces, qu'elles fussent françaises ou espagnoles, circulaient tout autant. Simplement, on prenait le temps à l'époque de les peser une par une, parfois d'utiliser des techniques de coupulation pour vérifier la teneur en métal précieux. Mais en tout cas, ces objets étaient considérés comme des petits lingots. Ce qui a fait qu'on les a transformés à Nantes, et ça, pour le coup, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est que c'était avant tout des aspects de spéculation financière, spéculation sur le change, en grande partie pour le bénéfice du roi, quoi, tout simplement, et puis de certains grands changeurs, donc qui s'accaparaient les richesses.
Des thématiques qui ne nous semblent absolument pas actuelles en ce moment et qui semblent totalement dépassées, qui n'arriveraient jamais, comme quoi il faut toujours se retourner un petit peu pour continuer d'apprendre et de critiquer nos propres comportements actuels. Gilda Salin, Charbel Koumir ainsi que Charlène Petit-Méziani, merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci.
Merci. C'est déjà la fin de notre émission aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur vos applications de podcasts préférées. Suivez nos aventures sur nos réseaux sociaux ainsi que toutes nos actualités. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
control, 'cause tonight might be your last. So stay up till sunrise. Wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Breakdance and boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out with me. I can't cry for those who ain't with me. I can't pray some Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching.
I want you to stay forever. I want you to stay
forever.
I want you to stay forever. I want you to stay forever. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Ring, ring. I'm trying to get my old thing back. True. But baby, I always wanna bring up shit from the past.
Yeah.
Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa, fuck check, see the necklace. Gold hit the lips every time that I'm hitting it. Huh, I told her, baby, I'm sorry. But if you think we got problems, then baby, watch Mari. Yeah, that's why you gotta smell the roses. We parted ways like she cheated with Moses.
That's fucked up, but a lot of things are.
In Hollywood, but I never see stars. Do anything for you, that's love. Go anywhere for you, that's love. Might even kill for you, that's love. And if you're still tripping, that's drugs.
Just let go of sorrow, like there's no tomorrow. 'Cause tonight might be your last. So stay up till
sunrise.
Wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Extra white, she's so extra white. My appetite, I lost appetite. It's paradise, we in paradise. So extra bright, it's so extra bright. So I break the beat and I smash it. She be like handsome, she be like dancing. Straight to my mattress, I was on smashing. I was on average, she was cadaver. No free smoke when your bait is gone. Wild love when it's free and it does no harm. New phone, who's this? And my life's on charge. Two shows, pay rent, get a girl, get a job. Belly up the beast when I walk in the streets. All I see is fake love, insecurity. 2 months, 7 days, all when you first came. Walked in, off white, all pink, okay.
The past, the past, the past, the past.